Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les arnaques sur Internet visent les jeunes, ils sont nés avec le numérique et les réseaux sociaux et pourtant, des escroqueries aux bourses d'études, aux visas, de faux produits de luxe vendus au rabais, des chantages aux vidéos sexuelles via des applications de rencontres, des liens vers des articles frauduleux sur les réseaux sociaux. Comment déceler les arnaques et mieux se protéger en ligne? Racontez-nous si vous avez été victime d'arnaques et posez toutes vos questions à nos invités. Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission parce qu'on aura un autre sujet à la fin de l'émission. Appelez-nous donc dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Il n'y a pas de honte à avoir été victime d'arnaques. Ça peut arriver à tout le monde. Il suffit d'un défaut d'attention, un tout petit peu de naïveté. Et puis surtout, aujourd'hui, les arnaques peuvent être très sophistiquées. C'est ce que vous allez nous expliquer. Benoît Grunewald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en cybersécurité chez ESET France, éditeur de logiciels de protection. Également avec nous, Samuel Comblet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence et directeur des opérations de l'association e-enfance et vous nous parlerez en particulier des mineurs, mais on va parler des jeunes au sens plus large. On sera aussi en ligne avec Yaya Koné, sociologue, anthropologue, spécialiste du phénomène bien connu des brouteurs sur le continent africain à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Depuis le temps que les brouteurs sont connus, médiatisés, est-ce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont plus méfiants par rapport au ressort des brouteurs et aux romances aussi imaginées par les brouteurs? En fin d'émission, un tout autre sujet, un portrait pas banal de Madame l'ambassadeur de France au Ghana, Anne-Sophie Havé. Elle est aussi la créatrice et la présentatrice du célèbre show télévisé Touch of France from Ghana, donc une émission ultra reconnue, populaire et récompensée au Ghana. On en discutera en fin d'émission.
RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Et tout de suite, écoutez ce message d'auditeurs. Ils sont de plus en plus méfiants globalement. Écoutez-le.
C'est indemne depuis le mot Togo. Il y a de cela 2 ans, quelqu'un m'a invité sur Facebook sous prétexte qu'il faisait un business qui lui rapporte beaucoup. Il a commencé par demander l'argent, une somme de 500 000 avant de garantir un poste dans la société. C'est dans ce sens que j'ai compris que c'est vraiment une arnaque. Et c'est dommage, ce sont les étudiants qui tombent dans ce cas. Donc soyez vigilants et prudents sur les réseaux sociaux. Merci.
Voilà, Edem, 25 ans, il est vigilant et prudent. Payé pour avoir un job, c'est quand même bizarre. Emeric aussi est à Kinshasa en RDC et il nous dit « Des arnaqueurs m'ont proposé une bourse d'études au Canada. J'ai même pas eu besoin de me renseigner plus sur la personne, rien que sa nationalité m'a fait douter de lui. » Bon, c'est pas une raison pour être raciste, mais c'est vrai qu'il y a des arnaques en série industrielles qui concernent certains pays plus que d'autres. Benoît Grunewald et Samuel Comblet, peut-être d'abord, Benoît Grunewald, qu'est-ce qu'on sait exactement sur le ciblage des jeunes concernant les arnaques aujourd'hui?
Les jeunes sont ciblés au même titre que les moins jeunes pour leur présence massive sur les réseaux sociaux. Et les cybercriminels ont subi une transformation numérique qui les amène à nous cibler sur les réseaux sociaux.
Rien qu'en France, les jeunes passent au moins 4 heures par jour sur Internet. C'est évidemment une flambée depuis la pandémie.
Oui, et c'est un bon moyen de retrouver des cibles que d'utiliser là où les outils qu'eux-mêmes utilisent.
Comment expliquer que des adolescents et des jeunes qui sont nés avec le numérique, avec les applis, avec les réseaux sociaux, se font arnaquer massivement aujourd'hui?
Je dirais qu'il faut dissocier l'outil, l'usage et la technologie. Donc, ce n'est pas parce qu'on sait utiliser des réseaux sociaux, par exemple poster une photo, que l'on comprend à la fois les implications et également ce qu'il y a derrière l'application, la raison d'être de cette application.
Samuel Comblé, vous travaillez pour l'association e-enfance. Vous avez observé une augmentation des arnaques et du ciblage des jeunes depuis la pandémie ?
Considérablement, oui. Effectivement, on a eu une augmentation très nette des escroqueries, des piratages depuis le premier confinement. La thématique principale avant le début de la pandémie, c'était le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, le piratage commence à prendre le pas. Et c'est quand on nous appelle sur notre ligne d'écoute, le 3018, bien souvent la première thématique. 24% de nos appels sont à thématique justement de ces escroqueries. Ça représente plus de 15 cas par jour. Et on les traite tous les jours. Et tout à l'heure, vous demandiez pourquoi les jeunes sont peut-être plus ciblés. Ben, c'est vrai qu'ils y passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils y sont aussi très seuls. Ça a été aussi une des problématiques du confinement. C'est que les parents étaient eux-mêmes pris par leur télétravail, par leurs propres préoccupations. Et c'est vrai que les jeunes, on les a suréquipés pendant le confinement parce qu'ils devaient continuer à aller à l'école, parce qu'ils se sont appropriés ces outils pour certains du jour au lendemain parce qu'il fallait se connecter, etc., à son école. Et puis forcément, plus on est exposé, plus on est aussi à risque de tomber dans ces pièges qui sont de mieux en mieux fait. Les experts gagnent du terrain. Enfin, les pirates sont de plus en plus experts, plus exactement. Et forcément, on peut tomber plus facilement dans ces pièges. Et je pense que la solitude accentue considérablement le risque de tomber dans ces pièges.
Ouais, c'est la crédulité qui est exploitée, c'est le manque d'expérience, le manque de méfiance, des ressorts psychologiques finalement,
ouais,
chez les jeunes.
Oui, on le voit, hein, les escrocs vont jouer sur la peur, sur l'anxiété, sur la pression. Il y a une forme d'emprise mise sur la victime. L'idée, c'est de lui faire de l'empêcher de penser, tout simplement, donc d'aller vite, très vite. Ça joue beaucoup sur cet aspect-là. Les jeunes sont souvent dépassés. Ils ont peur qu'il y ait une espèce d'enchaînement de situations et du coup, ils ont tendance à payer, ils ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et à faire l'inverse de ce qu'il faut, à savoir aller en parler à des adultes de confiance.
Est-ce qu'on peut donner des exemples précis de situations qui ciblent, là, pour ce qui vous concerne, des mineurs, hein, des adolescents?
Alors le cas le plus classique, et il concerne les garçons, et c'est bien, je trouve, d'en parler, parce qu'on a toujours la représentation que sont les filles qui tombent dans les pièges, mais les garçons également. Vous savez qu'il existe des sites de rencontres pour adolescents, des Tinder pour ados, etc. Il y en a plein. C'est pas problématique en soi. Le problème, c'est que vous allez avoir un garçon qui va se créer un profil, trouver une jolie jeune fille avec laquelle il va commencer à converser. Ils vont se donner rendez-vous par visioconférence, via Skype ou un logiciel ou une application qui va leur permettre d'être directement en contact. Ouais. Et puis la jeune fille, qui n'est évidemment pas une vraie jeune fille, va, favoriser une ambiance chaleureuse, inviter le garçon à se déshabiller. Elle va faire la même chose.
Mais là, il la voit quand même. Il voit en vidéo.
Il voit la vidéo.
Elle existe.
Alors, elle existe, mais on se rend compte que parfois, ce sont des vidéos qui sont tournées, c'est-à-dire des enregistrements qui tournent toute la journée. Donc, ce ne sont pas des vraies personnes. Et les vidéos sont tellement bien faites qu'on a vraiment l'impression de converser. Si vous n'êtes pas vraiment vigilant, vous avez l'impression d'échanger avec quelqu'un qui vous parle, qui réagit
alors que c'est déjà enregistré.
Exactement. Et donc ces entreprises, parce qu'il faut parler d'entreprises, hein, ce sont des bandes organisées, vont diffuser ces vidéos toute la journée. Alors la majeure partie ne vont pas forcément se faire avoir, mais les quelques-uns qui vont tomber dans le piège vont quand même.
Donc le garçon converse avec une fille qui en réalité n'est pas réelle, qui est une vidéo enregistrée.
Exactement.
La fille lui demande de se déshabiller, il le fait.
Voilà.
Il y a une vidéo de lui nu.
Voilà.
C'est enregistré.
La vidéo est enregistrée. Une fois que le garçon s'est déshabillé, alors parfois s'est masturbé, même pour vraiment accentuer l'horreur de la situation, la vidéo se coupe. Et puis la jeune fille, parce que j'ai oublié de le dire, elle a pris le temps évidemment d'obtenir l'adresse mail du jeune homme, éventuellement les logins pour aller se connecter sur ses comptes de réseaux sociaux, voire parfois on l'a vu pendant le premier confinement, elle obtient le mail des parents et elle va directement aller adresser un mail aux parents en disant: si vous ne me payez pas, on l'a vu pendant le premier confinement, 500, 800 euros, eh bien je vais diffuser la vidéo de votre enfant. Et malheureusement, et on comprend, les gens payent, parce que personne n'a envie de voir son enfant mis en pâture comme ça sur Internet, dans de telles circonstances. Et quand on paye, c'est la pire des choses à faire, puisque l'arnaqueur va évidemment flairer qu'il est tombé sur le bon poisson, je dirais, et puis il va redemander de l'argent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils appellent notre service, le 3018, pour pouvoir tout simplement se faire accompagner.
Ouais, donc là, pour le coup, la vidéo compromettante, entre guillemets, elle existe bel et bien. Parfois, elle n'existe pas du tout, même.
Oui, parfois ce ne sont que des allégations. On reçoit un message qui viendrait par exemple de la gendarmerie nationale ou de quelque autre autorité qui prétend soit avoir vu vos activités illicites, soit détenir des informations sur vous compromettantes et à partir de là, vous demande de payer ou vous demande de vous inscrire sur un site pour récupérer vos données.
Que faut-il faire dans ces cas-là quand on est victime d'un chantage sexuel ou autre ?
Alors la première des choses à faire, c'est surtout de ne pas montrer qu'on a peur, parce que encore une fois, un des ressorts va être d'appuyer sur cette anxiété provoquée chez la victime. Donc déjà de couper tout contact, de ne pas rester seul, de pouvoir peut-être prendre le temps de montrer ce mail, par exemple, dont on parle de la gendarmerie, parce que même s'ils sont de mieux en mieux faits, il y a quand même des petits indices qui nous permettent de déceler la vérité. Ça peut être l'occasion aussi, tout simplement, d'avertir la gendarmerie, d'avertir celui qui est censé être l'envoyeur de ce mail que, tout simplement, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu louche. Une chose aussi importante pour déjouer les arnaques, c'est toujours de se dire que sur Internet, quand c'est trop gros, quand c'est trop facile, quand c'est gratuit, il y a forcément quelque chose derrière qui doit nous alerter. Et souvent, les jeunes tombent dans ce piège-là, des téléphones offerts gratuitement, des voyages, etc., offerts sans contrepartie. Forcément, il faut le dire très fort, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est un petit peu louche et donc d'avoir toujours cet esprit critique sur Internet et de prendre toujours un pas de côté et de ne pas appuyer trop vite sur sa souris, je pense que c'est déjà un premier conseil important.
Oui, complètement. On voit les offres, notamment pour des téléphones à plus de 1000 euros, on voit bien la pression qui est mise. Cette offre est exclusive, n'est disponible que pendant quelques heures et comme le disait Samuel, l'objectif est bien de vous faire craquer, de vous faire perdre pied de la réalité et de vous dire je dois y aller, je dois foncer et ne pas se tourner vers quelqu'un qui va avoir un peu plus les pieds sur terre et effectivement leur objectif.
Ce qu'on appelle l'hameçonnage, il n'y a pas forcément de chantage sexuel à la clé, c'est encore un autre procédé. Alors, c'est aussi pour vous soutirer de l'argent.
Donc, l'hameçonnage est un terme générique, phishing en anglais, qui correspond au fait qu'on va vous envoyer un appât. Et cet appât est censé, en fonction de votre catégorie socio-professionnelle ou de votre genre ou de votre âge, vous amener la plupart du temps à cliquer, à une première action. Et ce clic va vous emmener soit sur des sites malveillants, soit vous amener en contact avec le cybercriminel. Et cet hameçonnage est vraiment de mieux en mieux fait. On disait avant qu'on pouvait les repérer aux fautes d'orthographe ou à la langue, à la mauvaise langue, mais notamment grâce à l'intelligence artificielle, les outils de traduction sont de plus en plus performants et il y a de moins en moins de fautes dans ce type de message.
Ça conduit ensuite à une prise en main de votre ordinateur ou pas forcément ?
Alors, c'est souvent le cas, et là je pense à ce que l'on appelle le faux support technique. Donc vous avez par exemple des publicités ou de l'hameçonnage qui vous affichent des sujets divers et variés, parce que moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui s'est fait avoir parce qu'elle a cliqué sur une publicité qui disait « Voyez quels sont les 25 plus beaux villages de… » Bon, là, pour le coup, c'était la France. Et la personne a cliqué. Et là, grosse sonnerie et un numéro de téléphone s'affiche. « Vous avez été attaqué, appelez ce numéro. » Et là, on est effectivement désemparé. C'est vraiment le ressort psychologique, le premier, qui vous met dans une situation stressante et qui vous invite à ne pas faire autre chose que de suivre les instructions.
Alors qu'en réalité, si on ne fait rien, il ne se passerait rien.
Exactement. Il suffit bien souvent de redémarrer sa machine pour que la soi-disant menace s'arrête.
Concernant le e-commerce, 26 millions de personnes en France sont victimes d'arnaques lors d'achats sur Internet. C'est la moitié des acheteurs de e-commerce. Évidemment, les jeunes sont là-dedans aussi.
Bien entendu, les jeunes sont tournés vers le e-commerce. Samuel l'a dit, avec le confinement, ils ont été massivement équipés d'outils technologiques. Et le e-commerce est une cible potentielle pour ces cybercriminels, or très très organisés.
On parlera aussi tout à l'heure du rôle des influenceurs et de leur façon de faire des publicités déguisées qui tombent maintenant sous le coup de la loi. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On a Daniel en ligne qui est à Abidjan. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Daniel, vous avez été victime d'arnaque, vous avez failli être victime d'une arnaque aux bourses d'études.
Emmanuel, si vous permettez, je vais d'abord vous dire que je vous aime.
Merci.
C'est un régal de vous écouter.
Merci beaucoup. Il n'y a pas d'arnaque là, on n'a pas payé pour ça. Mais alors, racontez-nous, non, parce que les arnaques aux bourses d'études sur le continent africain, beaucoup d'étudiants, évidemment, rêvent d'obtenir une bourse d'études. Les études à l'étranger coûtent très cher. Je ne parle même pas des visas aussi. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, Daniel.
Bon, moi, je reçois quasiment entre 3 et 5 mails par semaine. Et dans les mails, on me dit qu'il y a des bourses d'études étrangères pour la Suisse, la France, le Canada, plusieurs pays d'Europe et puis d'Amérique.
Entre 3 et 5 mails par semaine, c'est énorme.
Oui. Mais je ne sais pas comment les gens ils s'arrangent pour avoir mon adresse mail. Du coup, il y a une bourse qui a attiré mon attention, une bourse sur le Canada. J'avais commencé à m'inscrire tout et tout.
Ah oui.
Quand j'en ai en parlé à ma petite amie, et elle m'a dit, fais attention, ça peut être des arnaqueurs. Je lui ai dit, bon, pour le moment, comme ils ne m'ont pas encore demandé d'argent, essayons voir. Donc, on a essayé jusqu'au bout d'un moment, on me demande de transférer 200 000 francs CFA à Cotonou, au Bénin. Et on me donne le numéro d'un monsieur, son numéro et son nom.
Ouais.
Donc, je me suis dit, mais si ce sont des Canadiens, c'est une bourse canadienne, pourquoi des gens sont au Canada et puis ils veulent qu'on transfère les fonds au Bénin.
Ouais. Donc, vous avez bien fait. Vous avez bien réagi, Daniel. D'autant plus qu'il faut le dire, hein, une bourse d'études ne peut pas vous soutirer d'argent. C'est exactement l'inverse. Elle est là pour financer vos études. Donc, elle peut vous demander énormément de renseignements sur votre scolarité, sur vos titres académiques, sur votre CV, vos bulletins de notes, etc. Mais elle ne peut pas vous demander ni votre compte bancaire dans un premier temps, et évidemment encore moins vous demander de payer. Merci Daniel de nous avoir appelé, puis passez une très bonne journée à Abidjan. Ali aussi est à Dakar et nous dit... J'ai rencontré une fille sur Facebook qui se prétendait canadienne. Elle m'a envoyé des photos. Elle me disait qu'elle ferait tout pour me faire venir au Canada. Elle m'a envoyé un formulaire à remplir. Elle m'a demandé 150 000 francs CFA, c'est-à-dire 228 euros, me disant ensuite qu'elle payerait le billet d'avion et le visa. J'ai payé, j'ai été arnaquée. Ses comptes Facebook et WhatsApp ont disparu. Et puis il y a Abdoulaye aussi qui est prof d'allemand à Thiaroy dans la région de Dakar. Il a subi plusieurs tentatives d'arnaque, dont une il y a 15 jours. J'ai répondu à un message sur Messenger d'un inconnu se disant français, pensant lier une amitié, il m'a parlé de sa vie privée et de la mienne. Alors, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est toujours les Européens qui se font arnaquer par les Africains. Ben non. Il disait habiter aux États-Unis, il voulait investir au Sénégal. Je l'ai encouragé, raconte Abdoulaye. Et un jour, il m'a dit que, comme j'étais gentil, il enverrait des cadeaux pour ma femme, ma fille et moi. Il voulait envoyer le colis au Cameroun et me demander de payer le transfert. Sentant l'arnaque, je n'ai rien envoyé malgré les nombreux coups de fil du soi-disant agent camerounais. On est en ligne. Alors, peut-être vous voulez faire un commentaire, Benoît Grunewald, sur ces témoignages.
Oui, et il y a un point important. Notre auditeur disait, je ne sais pas comment ils ont eu mes coordonnées. Et c'est là où il faut être très vigilant dans la protection de ses ordinateurs, de son smartphone, parce que dans son smartphone, on a toute sa vie et on a notamment un carnet d'adresses qui contient en plus souvent la vie de ses amis. Et donc, protéger son smartphone et l'accès à ses contacts est primordial pour éviter que les cyberattaquants ne se partagent nos coordonnées et ensuite puissent nous cibler avec des informations précises et réelles.
Alors, protéger avec quoi ?
Alors, protéger déjà par des bonnes pratiques, c'est-à-dire mettre à jour son smartphone, mettre à jour ses ordinateurs, ne pas télécharger d'applications peu sûres ou où il n'y a pas beaucoup de commentaires, parce qu'on sait que, par exemple, une application gratuite de météo peut se transformer en un cheval de Troie, voire un cheval de Troie bancaire au bout de quelques mois, et installer...
Donc c'est-à-dire happer...
Les coordonnées, enfin quand vous essayez de vous connecter...
Siphonner les données, les coordonnées du smartphone.
Du smartphone, voire même lorsque l'on ouvre une application qui est caractéristique de transactions financières, eh bien, happer le login et le mot de passe pour ensuite se connecter à votre place ailleurs.
Donc, télécharger des applications connues, reconnues.
Exactement, sur des stores légitimes. Activer l'authentification à deux facteurs. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez à une application qui a de la valeur, notamment des applications bancaires ou financières, eh bien, vous demandez à ce que l'application vous envoie un petit code à 6 chiffres qui vous permet à vous et à vous seul de vous connecter et d'installer une suite de sécurité. Il y en a qui sont gratuites. Et ça va scanner l'intégralité des applications.
Alors vous restez bien sûr avec nous, vous continuez de nous téléphoner aussi les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41. J'ai lu des messages qui jouaient sur des ressorts psychologiques et d'ailleurs les auditeurs, beaucoup maintenant, sont méfiants. Mais ils sont tellement sollicités qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « et si tout d'un coup ce qu'on proposait était vrai ?» Nous sommes en ligne avec un spécialiste de la, des brouteurs, hein, puisqu'on parlait du phénomène des arnaques, des romances... Des romances sentimentales, amicales. Nous sommes en ligne avec Yaya Koné qui est au téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Yaya Koné, vous êtes sociologue, anthropologue, spécialiste du phénomène des brouteurs sur le continent africain. Vous êtes à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Le phénomène est ultra médiatisé maintenant. Et on le voit bien, on a encore beaucoup de témoignages là-dessus. Est-ce que les brouteurs continuent d'être eux-mêmes des jeunes, qui ciblent également des jeunes, quels que soient les continents ?
Donc, le phénomène des brouteurs, hein, donc c'est un phénomène... On désigne sous le terme de brouteurs, hein, déjà, qu'est-ce que c'est les brouteurs ? On désigne sous le terme de brouteurs des jeunes gens, hein, la plupart du temps, donc... C'est un éventail assez large, hein. Il peut s'agir d'adolescents hein, comme de jeunes adultes qui prospèrent hein, par le net hein, via des arnaques. Ce phénomène hein, s'est développé dans les années 2010, hein, dans les années 2010. Hein. Le phénomène tel que je l'ai en tout cas observé hein, à Abidjan ne visait pas les jeunes forcément, hein, il visait tout le monde. Hein. C'était des jeunes qui menaient donc ces actions de broutage hein, en direction d'adultes, hein, de jeunes adultes hein, ou d'autres. Donc ils cherchaient donc tout simplement à établir des contacts. Hein. Il s'agissait d'arnaques sentimentales, hein, d'établir des contacts avec des personnes à l'étranger, notamment en Europe, hein, en Occident, on va dire. Mmh. Hein.
Qui avaient plus de pouvoir d'achat, donc évidemment étaient plus susceptibles d'envoyer de l'argent pour nouer une relation sentimentale.
Bien sûr, bien sûr. Mais les brouteurs étaient des jeunes hein, qui entraient en contact avec des personnes. Hein. Les personnes que j'ai vues étaient, enfin que j'ai aperçues à travers donc leurs écrans étaient beaucoup plus âgées quand même.
Est-ce qu'il y avait le fait de cibler les Occidentaux pour des raisons financières, mais est-ce qu'il y avait aussi et est-ce qu'il y a toujours une forme de politisation dans la démarche des brouteurs?
Non, disons que la politisation, hein, le sport politique, hein, est pris comme c'est une sorte de dispositif hein, qui va servir à justifier, hein, servir d'argument hein, pour s'adonner à la pratique du broutage. Voilà. Donc ces arguments peuvent être, ils nous empêchent d'entrer en Europe, hein, donc on rapproche, on ne peut pas aller chercher l'argent à Bengué, à l'étranger. Donc, on fait venir l'argent de Bengué, hein, l'euro, à nos pieds. Ça peut être également hein, d'autres arguments plus farfelus, comme la dette coloniale, etc.
Ouais. Voilà. Mais... Est-ce qu'aujourd'hui, juste en un mot, Yaya Koné, est-ce qu'aujourd'hui, les brouteurs arrivent à continuer leur business aussi facilement, d'abord parce que le problème a été médiatisé et qu'il tombe sous le coup de la loi, hein, et également parce que les victimes sont de plus en plus méfiantes. Alors, est-ce que les brouteurs ont toujours de beaux jours devant eux ?
Bah, disons qu'il y a eu un âge d'or du broutage, hein, c'est durant la période que j'ai observée. Hein,
du fait des crises politiques en Côte d'Ivoire.
Oui, du fait des crises politiques, hein, c'est né vraiment dans ce contexte-là, dans ce marasme. Hein. Mais effectivement, la médiatisation, hein, l'information, la sensibilisation auprès de la source. Hein, la source, hein, c'est donc le lieu d'où provient donc la manne financière, hein, l'Europe. Hein, cette information, sensibilisation des Européens notamment, hein, a régulé, je dirais, hein, la pratique du broutage. En tout cas, ça semble plus efficace hein, que... de procéder à des arrestations.
Samuel Comblé, vous souhaitez intervenir ?
Oui, puis je pense effectivement que les brouteurs et les escrocs, en règle générale, ont de beaux jours devant eux parce que, bah d'abord, ils deviennent de plus en plus compétents. Et puis parce que tout à l'heure, vous disiez pourquoi les jeunes, alors qu'ils sont techniquement très compétents, tombent malheureusement dans les pièges. D'abord, on n'est pas jeune toute sa vie. Ça veut dire que la population jeune se renouvelle. Et je pense que le meilleur moyen de se protéger de ces arnaques, bah, c'est d'écouter votre émission notamment et toutes celles qui peuvent être faites peut-être justement pour expliquer les effets de mode, les nouvelles arnaques, parce qu'elles évoluent très vite, parce que tout est fait pour qu'évidemment il y ait toujours des nouveaux moyens utilisés par les escrocs pour vous prendre, je dirais, par surprise, parce que si on commence à en parler, forcément, notamment cette escroquerie avec les mails de la gendarmerie commence à être connue, je pense que rapidement elle va disparaître et on va se tourner vers une autre forme d'escroquerie. Donc c'est vraiment important de transmettre cette information et puis de faire de la prévention en expliquant les escroqueries à la mode.
Et c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup Yaya Kone, sociologue, anthropologue, d'avoir été en ligne avec nous. On l'a bien compris, il y a des escroqueries qui jouent sur des ressorts psychologiques, qui vous racontent une histoire à laquelle vous allez croire parce que vous ne faites pas tellement attention, vous allez cliquer, etc. Et puis, il y a des escroqueries qui jouent sur des ressorts très technologiques, notamment des clones de sites internet. Et là, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, même sur les ressorts psychologiques, ce n'est pas forcément évident de se prémunir. Et on rediscute de tout cela dans quelques instants. Vous pouvez continuer de nous poser des questions au 33 7 64 45 51 41. They go mad, they go crazy. How they want ghosts, my pocket like swings. Why they want killings, pocket with Satan. Just another nail in your coffin, you pagan, lazy. They go fight, they go anger. Run up in my shop with fire and panga. Got they gonna stop with Wahala and tantrum. When you bought from people, come like cancer. They go colo, colo. Come now, you wanna come if they fall. Oh, boy, got for aproko. I got change out for you, paper, don't rest, go. Should be all pay, fair. Moi mon frère, c'est vrai, j'ai fait mon chami, frère, j'ai fait mon bongo, c'est vrai, ton lobo son, regarde ton lobo son, tout fait, ton lobo son, mon lili lobo son, oumaye, 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 oumaye. Speak Matambo chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et aujourd'hui on s'intéresse aux arnaques sur internet qui ciblent plus particulièrement les jeunes, même s'ils sont aguerris sur les réseaux sociaux et ils sont parfois plus naïfs, plus crédules, plus seuls aussi devant leurs écrans. Ils ont envie de se faire des amis et parfois ils tombent dans des pièges qui sont ultra bien faits. On en discute avec nos invités. Benoît de Grumval, vous êtes spécialiste en cybersécurité chez 7 France, éditeur de logiciels de protection, et Samuel Comblet, psychologue de l'enfance et de l'adolescence pour l'association e-enfance. On parlait des ressorts psychologiques, mais on parlait aussi de l'extrême bonne technologie de ces arnaques aujourd'hui. Les sites clones, on va sur le site de sa banque, sur un autre site de e-commerce qui en apparence exactement le même site sur lequel on va d'habitude, et pourtant ce n'est pas ce site-là.
Non, et bien souvent, la technologie permet aux cybercriminels de cloner assez facilement parce qu'ils ne clonent pas tout ce qui est derrière. Ils clonent juste la page d'accueil, celle sur laquelle on va vous demander votre login et votre mot de passe. Ce qui fait qu'une fois qu'on a rentré ces deux informations, on peut même être redirigé vers le vrai site. Donc c'est transparent, c'est une sorte d'étape intermédiaire, sauf qu'une fois qu'on a mis son login et son mot de passe sur ce faux site, eh bien le cybercriminel l'a également.
Ouais, mais comment détecter qu'on n'est pas sur la bonne page alors qu'elle ressemble en tout point, qu'on a les mêmes logos, le même web design ?
Alors, il y a une chose qui est également capable, qu'ils sont également capables de reproduire, c'est le cadenas vert. Parce que le cadenas vert que l'on met en HTTPS, quand on est sur un site sécurisé, c'est-à-dire que nos échanges avec le site sont sécurisés, ce cadenas peut être également falsifié, notamment lorsque l'on achète un faux nom de domaine, un nom de domaine qui va ressembler à celui du nom de sa banque. Et c'est là le plus important, le point qu'il faut surveiller. Le nom de domaine doit être celui de sa banque et non pas une copie ou avec une faute d'orthographe.
C'est effectivement aujourd'hui un message important à transmettre, parce que pendant longtemps, on a dit, si il y a le cadenas et HTTPS, vous êtes sûr que le site
donc
est sécurisé.
Donc il faut lire après HTTPS.
Exactement.
Tout ce qu'il y a,
exactement.
Hein, voilà.
La moitié des sites aujourd'hui d'escrocs ont ce petit cadenas et ce HTTPS, donc c'est malheureusement plus une façon de se protéger. Par contre, quand il y a une erreur d'URL avec quelque chose d'un peu bizarre et d'inhabituel, c'est ça qui doit nous alerter.
Est-ce que les applis sont plus sécurisées que les sites aujourd'hui?
Alors, l'appli est plus sécurisée.
Pour une banque, par exemple.
Alors, pour une banque, ou on parle d'applications financières au sens large, parce que les cybercriminels ciblent également énormément les crypto-actifs. Donc, les applications financières, d'une manière générale, sont plus sécurisées. Pour autant, elles tournent soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur. Et dans ce cas-là, c'est l'environnement qu'il faut surveiller et auquel il faut prendre soin.
Les jeunes adorent les crypto-monnaies. Mmh. Beaucoup ont fait avec de petites sommes, de bons placements, très lucratifs. Hein. Comment faire pour ne pas se faire arnaquer sur un site de crypto-monnaies?
Alors déjà, il y a le site en lui-même. C'est-à-dire qu'on parlait des sites clones. Il y a des faux sites pour les crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, c'est typiquement une arnaque à l'investissement. On va vous demander d'investir, mais ce n'est pas un vrai site. Et puis ensuite, il y a des petits logiciels qui, lorsque vous allez déplacer vos crypto-monnaies, par exemple payer d'un point A vers un point B, va remplacer l'adresse du destinataire par la sienne. Et ça, c'est quasiment imperceptible, sauf à vraiment relire plusieurs fois et de manière très attentive avant de cliquer sur transférer.
Oui, moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut absolument lire tout ce qu'il y a sur l'écran, prendre son temps, ne pas faire 36 choses en même temps et être attentif, finalement.
Exactement. Et écouter ses émotions aussi, parce que tout à l'heure, dans les témoignages, je trouve que ce qu'il y avait d'assez flagrant dans les trois que vous avez présentés, c'est que ça joue sur le rêve, toutes ces escroqueries. C'est-à-dire qu'on va faire croire aux gens qu'il y aura de la richesse, qu'il y aura de l'amour au bout du compte. Alors, c'est très bien, parfois c'est vrai, mais souvent, malheureusement, il y a quelque chose qui se cache de malveillance derrière. Donc, quand on sent qu'on a une émotion trop positive, il faut l'interroger et ça doit être un petit signal d'alerte intérieur pour nous aider à être prudents.
Alors, les jeunes adorent acheter de la technologie quand ils ont un petit peu de pouvoir d'achat. Ils aiment acheter des smartphones et ils consultent des avis de consommateurs. Ils ont raison sur le fond ou pas ?
Alors oui, ils ont raison sur le fond. Il faut juste vérifier que ces avis sont bien légitimes, notamment je pense à de la quantité, c'est-à-dire que plus il y a d'avis positif, mieux c'est, parce qu'il est difficile de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis positifs. Et puis ensuite, il faut s'assurer que ce qui est rédigé, lire ces avis, on ne peut pas tout lire, mais en lire une bonne majorité, et ne pas s'arrêter qu'aux avis positifs, mais bien aller voir ceux qui pourraient être négatifs.
Bon, ça d'accord, il n'y a pas besoin d'être spécialiste en informatique. Est-ce qu'une grande plateforme de e-commerce peut s'acheter des avis positifs? Je sais pas, les avis sur Amazon, ça vaut quoi?
Alors, sur cette plateforme-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des pratiques malencontreuses de sites e-commerce qui souhaitaient avoir beaucoup d'avis positifs et qui ont pu pratiquer de l'achat d'avis. Il existe maintenant une sorte de bonne pratique au sein des grandes plateformes qui ont stoppé, s'ils l'avaient déjà fait, ces activités. Et aujourd'hui, sur des grandes plateformes, on peut considérer que les avis sont sûrs. Et par contre, ça n'empêche que le produit peut ne pas correspondre à ce que l'on attend.
Des avis sûrs, mais des avis non modérés, c'est-à-dire que les avis négatifs ne sont pas éjectés?
Ça, il faut lire les conditions générales de la plateforme, la plupart du temps, sur une plateforme de
écrit en minuscule,
de grande envergure,
que personne ne lit.
Le risque en plus, c'est plutôt les avis positifs plus que les négatifs, parce que les avis positifs vont certainement enjoliver peut-être un produit et le rendre peut-être plus beau qu'il ne l'est dans la réalité. En général, il y a très peu de faux avis négatifs. C'est plutôt les positifs dont il faut se méfier.
Ouais. Samuel Comblet, puisque vous êtes psychologue et que vous occupez d'e-enfance, de l'association e-enfance, est-ce que vous diriez que les jeunes aujourd'hui, étant mal informés sur des sites de presse, enfin via les réseaux sociaux essentiellement, du coup, ne savent pas détecter les applis les plus populaires, au sens qui ont pignon sur rue, les plus fiables, parce qu'ils ne lisent pas les articles de presse de journalistes qui ont enquêté déjà sur ces sujets-là.
Ouais, vous avez raison, je pense que c'est un gros problème. On parle souvent de la désinformation, des fake news, etc. Je pense que le principal problème des jeunes, c'est pas la désinformation, c'est la mésinformation. C'est-à-dire qu'ils ne s'informent plus, ils ne s'informent s'informent pas. Ils croient savoir parce que effectivement la technologie est quelque chose de très intuitif, très naturel pour eux. Le problème, c'est qu'ils ont encore besoin de nous, des générations qui les ont précédés, parce que certes, intuitivement, la technologie est facile pour eux, mais déjouer ces pièges, leur faire comprendre que dans la vie, malheureusement, il peut y avoir aussi des escrocs et des gens qui ne leur veulent pas du bien, c'est de nous dont ils doivent écouter le message. Et c'est vrai que c'est notre travail à tous les adultes de pouvoir les alerter là-dessus. Et c'est vrai que je trouve que les adolescents ne s'informent pas suffisamment de toutes ces escroqueries.
Un dernier conseil, Benoît Grumwald, est-ce qu'il faut avoir plusieurs adresses mail ?
Ça me semble évident. Et surtout,
en dehors de l'adresse professionnelle, évidemment.
Alors, en dehors de l'adresse professionnelle, on va dire une adresse un peu poubelle qui sert pour le tout venant, et puis une adresse personnelle qui sert pour des contacts vraiment proches. Et je dirais, avant d'avoir plusieurs adresses e-mail, il faudrait avoir plusieurs mots de passe et un gestionnaire de mots de passe pour protéger son identité, basé souvent sur l'adresse e-mail.
Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Benoît Grumwald, spécialiste en cybersécurité chez S7 France. Merci à vous, Samuel Comblé, psychologue pour l'association e-enfance. Merci aussi à Yaya Koné, sociologue-anthropologue, qui était en ligne avec nous tout à l'heure. Dans quelques instants, reportage au Ghana, à l'ambassade de France à Accra. Je vous propose de découvrir une diplomate pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle est aussi présentatrice d'un show télévisé sur une chaîne ghanéenne. Une autre façon de parler de la France. Ça sera juste après, justement, le rappeur ghanéen et fan de l'émission, Flemous.
On va bouger le monde, on va bouger le monde. Can you touch your France in your household? Is it touch your France in your mind? Is it time for Ghana make a big step? Is it time to dance to the vibe? If you know what it is, then you know what I mean. From Accra to Paris, it's how you gonna feel. It's what you wanna see, it's what you wanna feel. It's where you gonna be, yeah, yeah, yeah. Is it touch your France from Ghana? Is it touch your France from now? Is it touch your France from Ghana? Is it touch your France? On va bouger le monde. 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 Nous sommes du Ghana et la France. Communauté sans différence, yes. Que de la musique et l'ambiance, yes. Que l'éducation en avance. This is the time, this is the chance. To see France in Ghana. To see Ghana in France. Together as one. It's a touch of France from Ghana. It's a touch of France from now. It's a touch of France from Ghana. It's a touch of France. On va bouger le monde. On va bouger le monde.
Reportage tout de suite sur Madame l'ambassadeur de France au Ghana, Anne-Sophie Ave, qui est même citée lors de concerts de rappeurs.
She work a lot for the connection between France and Ghana, and I want you to make again some noise for Anne-Sophie.
Anne-Sophie Ave.
Voilà, ça c'est le concert du rappeur Sarkozy qui cite Anne-Sophie Ave, ambassadeur de France au Ghana depuis 2018. Elle est aussi un personnage public incontournable dans ce pays. Il y a quelques jours, elle a notamment été nominée au Ghana Movies Award dans la catégorie découverte de l'année pour sa participation au film ghanéen Fire and Ice, où elle jouait le rôle d'un éditeur français. Elle est le fer de lance de l'organisation du concert Paris in Accra en novembre dernier. Elle a été nommée une Koso Emma, la reine mère, une distinction notable par la chefferie de Hani dans la région de Bono. Et puis surtout, dans ce show télévisé que présente Madame l'ambassadeur, se pressent des entrepreneurs, des influenceurs, des artistes, des acteurs politiques, des ministres, présidents de la République compris, qui se succèdent depuis un an sur le plateau de son émission télévisée Touch of France. Son parcours n'est pas celui d'une diplomate de carrière. Elle a commencé dans le secteur privé avant d'entrer au ministère des Transports à Paris et de rejoindre le cabinet de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, entre 2012 et 2015, avec un franc-parler, une audace aussi, une détermination affichée. Elle endosse le rôle d'ambassadeur en misant sur un soft power incarné.
Hey Anita, you love French, don't you?
Lovely, love it.
You mention cheese. So if I go and buy some French cheese, what will be written on the box? Will that be cheese or will it be...
It will be fromage.
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 And what's your favorite cheese?
La France ici, pour rayonner, elle doit utiliser eh bien, nos passions communes. Le sport, la musique, la culture. Et je me suis posé la question de comment je pouvais faire savoir au plus grand nombre et parler à l'opinion publique en disant « voilà ce qu'on fait, voilà comment on coopère ». Cette coopération, elle est valorisante pour vous. Et pour ça, j'ai utilisé la télévision. Et puis, pour partager justement ce que nous faisons en France et ce que nous faisons au Ghana avec un Ghanéen et avoir son regard sur la France, sur la culture, sur le sujet du jour, j'ai pris le parti de le faire sous la forme d'une conversation avec une célébrité ghanéenne, que ce soit une célébrité du monde du sport, de la musique, du monde politique, du cinéma, parce que les gens sont tentés de regarder quand ils identifient quelqu'un sur leur écran qu'ils reconnaissent.
Today, we will be talking about football, a common passion to France and Ghana. Abedi Pelay, come with me.
Thank you.
How are you?
Pretty good.
I have an amazing guest who is a superstar here in Ghana, and he was born and bred in Ghana. I'm sure you have recognized him. Do you know what time it is?
Hi Anne, how are you doing?
I'm fine, thank you so much for being with us.
Bless you.
That was
a great intro, by the way. Love that.
Et parce que lorsque ce sont ces gens qu'ils aiment, parce que ce sont leurs célébrités, qui sont leurs personnalités préférées, qui disent, eux, qu'ils aiment la France et pourquoi ils aiment la France, alors c'est plus crédible que si c'est moi qui dis il faut aimer la France c'est bien, puisqu'on va me dire mais vous êtes payé pour ça, ce qui est vrai, je suis là pour ça, pour promouvoir la France, la culture française et la langue française.
Anne-Sophie Havé, ambassadeur de France au Ghana, a même reçu en juillet dernier le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, non pas à l'ambassade de France, mais dans son show télévisé Touch of France, une autre façon de parler de géopolitique.
We are an English-speaking island.
Nous sommes une île anglophone.
Yes.
Si on regarde notre frontière à l'ouest, notre frontière à l'est, notre frontière au nord, ce sont tous des pays francophones où le français est la langue officielle. Donc ça a beaucoup de sens pour nous d'avoir un lien aussi avec ces pays, et bien sûr également avec la France. C'est pourquoi nous sommes intéressés par la francophonie, qui revêt un sens géopolitique pour nous au Ghana.
La France, elle a une place qui est complètement différente de celle qu'on a dans les pays avec lesquels on a une histoire et une tradition. On est une ambassade parmi 60. On est une ambassade qui n'a pas, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, et sans parler de la Chine, de la Turquie, des Émirats, qui ont des politiques d'investissement au Ghana, parce qu'ils ont identifié ce pays comme étant justement une locomotive, qui sont colossales.
Let's discover France. French and France in Ghana in a new episode of Touch of France.
Hello, bonjour, welcome, bienvenue to Touch of France, the show that tells you about France and France in Ghana. My name is Anne-Sophie Havé. I'm the French ambassador to Ghana and a lover of all things France and Ghana.
Que Touch of France ait été élu meilleure émission de l'année en 2021, c'était une énorme surprise, on ne s'attendait même pas à être nominé. Ça a été aussi une énorme surprise, le fait d'avoir été nommé diplomate de l'année, c'est je crois la façon qu'ont les Ghanéens de dire cette forme de diplomatie, ce qu'ils appellent le people to people, qui nous parle à nous, qui fait la transparence un peu sur ce que fait le pays au Ghana. On voit passer des voitures avec des drapeaux, mais que font ces ambassadeurs ici finalement ? et leur avoir donné une visibilité sur ce que fait la France au Ghana. Je pense que c'est ça qui les a séduits et qui m'a valu cette reconnaissance. Et puis, énorme surprise aussi d'avoir été nominée pour Most Positive Impact Influencer. Impact positif, influenceur d'impact positif, oui, ce qui est reconnu à travers ça, c'est l'action de la France. Et que dans un concours panafricain, la France ait été choisie parmi les trois finalistes pour être l'influenceur à impact positif de toute l'Afrique, aux côtés d'une jeune Kenyane blogueuse exceptionnelle et d'un Sénégalais qui travaille sur l'éducation des jeunes enfants. C'était une reconnaissance exceptionnelle. Ça peut marcher ici parce que le taux de pénétration de la télévision et de l'Internet est énorme. 200% de téléphonie, 70% d'Internet. Presque tout le monde a une télévision, d'une manière ou d'une autre. Et puis, là où il y a des villages où il n'y a pas des télévisions individuelles, vous avez forcément une espèce de foyer commun où les gens se réunissent pour regarder ensemble la télévision.
There is only one procedure and it is online. And on the embassy website.
On a ici, comme dans beaucoup de pays, des problèmes avec les visas. Il y a des pseudo-agents qui essayent d'escroquer les gens en leur prétendant que s'ils payent des sommes colossales, on va leur obtenir des visas. Et donc, vous avez énormément de gens qui se sont fait avoir. Ce n'est pas des agences qui ont pignon sur rue, ça serait trop facile, avec un numéro de Siret. Non, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui dit qu'il va pouvoir vous avoir des visas. Et qui, évidemment, vous facture des sommes colossales. Et évidemment, quand ça arrive à l'ambassade, le dossier est pourri et on rejette le visa. Mais la personne a la dette quand même. Et donc, il fallait pouvoir dire, halte, ne passez jamais par des agences. Les visas, ça se passe par france-visa.gouv.fr. Donc, surtout, ne passez pas par des agences. J'ai eu beau aller le dire à la radio, aller le dire dans la presse. Les gens qui sont vulnérables et qui peuvent être tentés par ces pratiques, ce n'est pas le bon vecteur. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils regardent des séries télévisées, et notamment une série qui est l'équivalent de Plus belle la vie au Ghana, qui s'appelle Searching for a Wife. Et donc, on m'a proposé d'écrire un épisode de cette série-là, dans lequel le héros se fait piéger par une agence, et où sa belle-mère se trouve être une amie, qui m'appelle pour me dire, oh mon Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et je lui réponds, eh bien non, parce que voilà, il s'est fait piéger, et ça me permet d'expliquer quel est le circuit, le processus, pour être très dissuasive. Le message en creux, c'est un, passez pas par une agence, et même si vous connaissez personnellement l'ambassadeur, il ne pourra rien faire pour vous. Et ça, ça a eu énormément d'impact, parce que là, au moins, on va dans les foyers et les gens se disent, ah bah si c'est arrivé au héros du Plus belle la vie local, ça pourrait m'arriver. Je peux prendre le risque d'être sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas à gérer du French bashing, je n'ai pas à gérer des critiques, je n'ai pas à gérer des agressions sur les réseaux sociaux qui sont parfois des déversoirs de haine. Moi, je n'ai pas du tout ça. Je n'ai que des gens très bienveillants qui ne disent que des choses extrêmement positives. Il peut arriver de temps en temps des remarques. J'essaye de répondre quand les remarques ne sont pas agressives et que voilà, c'est des questionnements ou des... Quand c'est exprimé sans agressivité, sans insulte, je réponds évidemment. Mais dans certains pays, ça fait partie... Voilà, vous incarnez la France dans des pays où la France peut avoir... Il y a du ressentiment à l'égard de la France, vous en êtes le catalyseur. Donc ça ne peut pas marcher partout.
Touch of France TV Show Season 2. Ça va faire bouger le monde.
Et la deuxième saison de Touch of France, diffusée chaque dimanche sur les chaînes GH1 TV et Metro TV, vient de se clôturer, produite par l'entrepreneur des médias ghanéens Bollaré, qui est sponsorisé par des entreprises aussi, notamment des entreprises françaises implantées au Ghana, donc qui financent l'émission. Dans quelques mois, en août 2022, Anne-Sophie Avey, qui vient de fêter ses 53 ans, quittera le poste d'ambassadeur au Ghana, alors qu'elle candidate pour un poste au Kenya. Elle laissera à son successeur à Accra le soin de poursuivre ou non une diplomatie orchestrée avec une forte présence publique, en tout cas médiatique, culturelle. Reste à savoir si Touch of France pourrait inspirer d'autres chancelleries ambassades. On aimerait avoir vos réactions, tiens, à ce sujet. Vos points de vue nous intéressent. Vous pouvez poster vos messages au 33 7 64 45 51. 41 et bien évidemment aussi sur Twitter. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac à la technique. Dans les jours qui viennent, 7 milliards de voisins vous propose de réécouter une sélection d'émissions. Et puis on se retrouvera le 31 décembre, émission spéciale Réveillon dans différents pays du monde. Comment on fait la fête pour ce dernier jour de l'année. Et puis bien sûr, on reste en contact via les réseaux sociaux. Je vous dis à très très vite. Vous pouvez nous retrouver notamment sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. À très bientôt les voisins et les voisines.
Milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur